Olivier Bedlem, vous êtes donc intervenant à l'EDEC Business School de Lille, notamment pour enseigner le droit des affaires européennes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Euradio pour parler du commerce européen et de cette présidence française de l'Union européenne.
Merci beaucoup également pour votre invitation sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur.
Pourquoi d'ailleurs ça vous tient à cœur? Parce qu'effectivement, vous enseignez le droit des affaires européennes, mais on n'a pas l'impression, en tout cas à première vue, que ce soit le sujet majeur sur lequel Emmanuel Macron, durant cette présidence du Conseil de l'Union européenne, veuille vraiment s'attarder. C'était un des sujets évidemment en jeu, mais finalement, pourquoi celui-là est vraiment primordial? Parce qu'à première vue, mine de rien, on pourrait se dire il y a quand même un peu plus important que le commerce extérieur en Europe en ce moment même.
Alors, en réalité, c'est très important et c'est très justement, ça s'est manifesté au moment de la crise du Covid. Ça s'est manifesté au moment des premières déclarations, au moment du premier confinement dans les déclarations d'Emmanuel Macron, de montrer justement qu'on avait besoin de cette autonomie européenne.
Justement, on parle de commerce européen, c'est ça, c'est quand Emmanuel Macron a déclaré donc ses priorités, quand ses priorités sont parues dans la presse notamment, on peut citer la première que sont les marchés publics internationaux. En d'autres termes, l'objectif d'Emmanuel Macron est de limiter l'accès aux appels d'offres ouverts de l'Union européenne pour justement que les entreprises extérieures dont les pays n'offrent pas les mêmes conditions d'accès aux marchés publics ne puissent plus vraiment avoir cette facilité-là à investir vraiment en Europe sur ces marchés publics. Cette question-là, elle est vraiment primordiale parce qu'on a une défaillance en termes de compétitivité avec l'extérieur, d'après vous ?
Alors, ce n'est pas une question de défaillance en termes de compétitivité, c'est une question d'avoir un marché sur lequel on a un marché loyal, sur lequel on a des conditions de concurrence loyale. Donc ça, ce sont des choses qu'on connaît bien en école de commerce. Un marché, il fonctionne bien à partir du moment où on a des entreprises en concurrence. À partir du moment où la concurrence n'existe pas parce que certains sont avantagés, dans ce cas-là, c'est plus une concurrence loyale. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut que l'autre se défende.
Qui régit les règles de concurrence, justement, sachant que, certes, l'Union européenne peut gérer son propre environnement dans la communauté des 27, mais finalement, quand ça touche, justement, à des relations avec des pays tierces, ça peut être la Chine, notamment, les États-Unis. Elles jouent avec leurs propres règles. C'est quand même compliqué de régir les relations avec les pays extérieurs et d'imposer ses propres règles sur son marché, sachant que les autres ne veulent peut-être pas s'y plier.
Alors, on a des moyens. Et en réalité, l'ensemble du commerce international, vous avez cité la Chine, vous avez cité les États-Unis, la plupart des économies, elles se soumettent aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et dans ces règles de l'Organisation mondiale du commerce, on doit avoir une relative loyauté dans les échanges. Maintenant, par le biais de la réglementation, par le biais notamment de la réglementation des appels d'offres, on peut avoir des moyens de pouvoir limiter un petit peu l'accès. Et effectivement, c'est ce que font les États-Unis, c'est ce que font la Chine, et c'est ce contre quoi l'Union européenne cherche à lutter aujourd'hui.
Parce que justement, la concurrence n'est pas respectée quand les entreprises européennes veulent investir dans ces pays-là, alors qu'en revanche, justement, c'est plus libre pour les entreprises et les pays tierces de venir investir en Europe. Finalement, comment ça se passe à ce niveau-là ?
En fait, pendant très longtemps, l'Union européenne est partie du principe que avoir un marché ouvert à l'international, avoir énormément d'échanges, c'était quelque chose qui était extrêmement positif et qu'il fallait favoriser énormément cette concurrence ouverte. Donc l'Union européenne a ouvert ses marchés notamment à des appels d'offres auxquels pouvaient répondre des entreprises européennes, mais auxquels pouvait répondre également n'importe quelle entreprise à l'international. Ça a fonctionné. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'en réalité, d'autres États avaient pas les mêmes conditions et eux favorisaient leur propre entreprise. Donc dans ces conditions-là, effectivement, ça fonctionne très bien à partir du moment où on a tous un marché ouvert et à partir du moment où on peut tous profiter parce que on ouvre nos marchés, mais on peut avoir un marché au Brésil, on peut avoir un marché aux États-Unis, on peut avoir un marché, etc. En revanche, à partir du moment où nous, on ouvre notre marché et donc on donne des contrats à des entreprises chinoises, mais qu'en revanche, une entreprise française, elle n'arrive pas à aller en Chine, là, ça pose un problème.
En effet, et d'ailleurs, c'est l'un des autres points, en tout cas, l'un des axes de réforme d'Emmanuel Macron, à savoir la protection donc du marché européen contre les entreprises ultra-subventionnées de pays tierces. On peut évidemment penser à la Chine qui subventionne énormément ces entreprises, ces champions, notamment technologiques, qui viennent viennent ensuite exporter leurs produits ou investir, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. C'est là aussi une question majeure de faire attention à ce que ces énormes puissances, donc ces énormes entreprises, qu'elles soient, je disais chinoises, mais ça peut aussi être américaine, on le voit avec les GAFAM, hein, notamment Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui sont soumis, en tout cas on commence à avoir une certaine, beaucoup de règles pour essayer de les encadrer. C'est ça aussi l'un des enjeux principaux. On a parlé des États maintenant aussi s'attaquer à la régulation des entreprises pour éviter que le marché européen ne soit submergé.
Comme je vous le disais, le commerce international, il fonctionne bien à partir du moment où on est sur un pied d'égalité. Maintenant, on peut être sur un pied d'égalité de plusieurs manières et on peut utiliser les règles pour être justement en déséquilibre de plusieurs manières. Alors, l'une des manières, ça va être effectivement par la législation, notamment par la législation sur les appels d'offres internationaux, sur lequel un pays peut dire qu'il va favoriser ses propres entreprises. Ça peut être également par le fait que on va avantager ces entreprises en les subventionnant. Et bah, dans ce cas-là, elles auront des coûts moins élevés et elles pourront atterrir sur un marché en étant beaucoup moins chères, mais en réalité avec de l'argent public du pays dans lesquels ils viennent. Et puis, ça peut être également le cas parce que une entreprise sera pas soumise aux mêmes règles, sera pas soumise aux mêmes normes, sera pas soumise aux mêmes normes de production et notamment sera pas soumise aux mêmes normes environnementales. Et donc, elle aura également un avantage parce qu'elle aura dépensé moins pour protéger l'environnement. Mais ça veut dire qu'on va importer finalement de la production de carbone.
Et donc ça, effectivement, c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment, à savoir ces entreprises extérieures qui viennent ne sont pas soumises aux mêmes règles pour l'instant, ou est-ce que justement c'est en voie d'évolution pour les mettre au même niveau ? Parce que j'imagine que si c'était déjà le cas, on n'aurait pas besoin de mettre des législations supplémentaires pour essayer de réguler un petit peu tout ça.
Mais effectivement, pendant très longtemps, on a l'Union européenne est partie du principe qu'il fallait un marché ouvert, et que si on montrait l'exemple en étant un marché ouvert, on aura un marché ouvert également dans les autres pays. À partir du moment où c'est pas le cas, l'Union européenne réagit, et notamment effectivement sous l'impulsion de la présidence française de l'Union européenne. Mais vous avez probablement pu le lire dans l'ensemble de la presse, la présidence française, c'est pas une vraie présidence. C'est le fait que on va se charger de l'organisation, on aura une certaine impulsion, on va donner une couleur stratégique, mais en réalité, on va poursuivre des projets qui ont été réfléchis depuis un certain nombre d'années, notamment la proposition sur les marchés publics internationaux. Elle date d'avant la présidence et la présidence veut la faire aboutir pendant ce semestre, mais en réalité elle s'inscrit dans un cycle sur lequel tous les pays sont des co-acteurs pour pouvoir faire aboutir cette réglementation. Donc effectivement, on a conscience qu'il faut réglementer, il faut le temps de créer une réglementation, une loi ça prend quelques années à être adoptée, c'est normal. Mais effectivement, c'était le moment de réagir et là, on est en train de réagir.
Est-ce que c'est possible en 6 mois, justement, de voir aboutir cette législation qui, vous l'avez dit, est déjà en réflexion depuis plusieurs années? Et surtout, est-ce que tous les pays aussi sont d'accord avec cette loi? J'imagine que certains ont des logiques différentes en rapport avec, justement, les liens qu'ils peuvent avoir avec tel ou tel pays en dehors de l'Union européenne.
Effectivement, et ça c'est un changement de paradigme, c'est un changement de manière de voir l'Union européenne. C'est-à-dire que chaque pays, bien entendu, il subit des conséquences. Chaque pays, il a envie de faire du commerce international pour ses propres entreprises, et certaines entreprises, elles profitent de marchés. Mais à partir du moment où l'ensemble de l'Union européenne subit des conséquences, le fait que quelques pays, même des gros pays de l'Union européenne, profitent de marchés, mais si tous les autres en subissent les conséquences, il faut une réglementation parce qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble plutôt que de réfléchir individuellement au sein de l'Union européenne. Sinon, on se fait tout savoir.
Et justement, 6 mois, là, ça suffira d'après vous pour pour donner vie à cette loi, ou est-ce qu'on est vraiment sur la fin, ou est-ce qu'il reste quand même un petit peu de travail d'après vous pour pouvoir avoir un texte qui est vraiment efficace et qui pourra, un petit peu contraindre les entreprises extérieures et en même temps peut-être mettre un pied d'égalité avec celles en Europe qui seraient soumises justement à une concurrence déloyale?
Alors, je vais répondre comme prof de droit européen. Pour qu'une loi soit adoptée, il faut qu'elle soit proposée par la Commission européenne, il faut qu'elle soit adoptée par le Parlement, adoptée par le Conseil de l'Union européenne. La Commission européenne a fait sa proposition, Elle a déjà transmis cette proposition au Parlement, au Conseil. Le Parlement a donné un avis favorable à une immense majorité. Il n'y a que quelques députés qui y sont opposés, mais l'immense majorité du Parlement va le voter, donc c'est une formalité. Reste le Conseil de l'Union européenne, la réunion de tous les ministres de l'Union européenne. Et là, effectivement, c'est un accord politique en réalité. Le poids moral d'une présidence française de l'Union européenne peut parfaitement, alors que tout le monde effectivement est d'accord sur le fait qu'il faut une certaine réglementation, c'est sur les détails de la réglementation qu'on discute. Mais là, on est bien d'accord effectivement sur tous les pays sont bien d'accord et effectivement, la présidence française là pour le coup prendra son rôle de dire un impact stratégique, j'ai une possibilité de pouvoir affirmer un peu plus fort, qui fait qu'on va avancer encore un peu plus vite. Mais là, on est vraiment à la fin du processus. Dans tous les cas, ça aurait été pendant la présidence française ou dans les mois suivants. Mais on est vraiment sur la fin du processus législatif sur cette réglementation-là.
Et en effet, on en parlait tout à l'heure en off. On a eu la semaine dernière des réunions de ministres donc de l'Union européenne à Brest sur ces questions aussi justement de commerce extérieur. Et donc, ça, ce qu'on disait, c'est que ça prouve bien quand même que c'est un enjeu qui est vraiment du moment, qui est au cœur des discussions et qui sera une des priorités, bien entendu, du président. Président Macron, ça signifie quoi finalement d'après vous le fait que cette réunion, enfin ces réunions se soient tenues la semaine dernière et que finalement on mette vraiment ça sur la table et que concrètement on s'empare du sujet?
L'un des objectifs principaux de la présidence française de l'Union européenne, c'était de mettre en place, favoriser une souveraineté européenne. Et cette souveraineté européenne, c'est le rapport de l'Union européenne par rapport à l'international. Maintenant, pendant la présidence française, pendant la présidence de l'Union européenne, le pays organise un certain nombre de réunions à très haut niveau dans le pays qui organise, donc cette fois-ci en France. Le fait qu'effectivement, parmi les toutes premières réunions, il y ait cette réunion pendant 3 jours à Brest sur les questions de défense et sur les questions d'affaires internationales, c'est un marqueur très important de dire c'est vraiment tout en haut de la pile, c'est vraiment un sujet fondamental pour la France d'avoir décidé de mettre cette réunion en tout premier, dans le tout premier mois de la présidence française, et d'y consacrer 3 jours. Donc effectivement, ça montre bien l'importance pour la présidence française de ce sujet-là.
On est quand même aussi dans un cadre un peu plus large, on en discutait à nouveau tout à l'heure en off, c'est que finalement, oui, ces questions de commerce sont importantes, mais elles sont importantes à d'autres niveaux. On a cité entre nous tout à l'heure le Green Deal, effectivement, de l'Europe. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui est restreint finalement que au commerce. On a une vision vraiment plus large. Vous avez parlé de souveraineté, mais justement, c'est que c'est transversal avec bien d'autres sujets finalement, ce dossier-là, de réguler le marché européen pour les entreprises étrangères et donc locales au sein de l'Union. Et en même temps, ça touche, je le disais, à d'autres sujets aussi, peut-être même beaucoup plus importants encore.
Effectivement, pourquoi est-ce qu'on est en Europe et pourquoi est-ce que cette souveraineté européenne, elle est importante? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler d'une seule voix? C'est bien sûr pour le développement économique, ça a été un peu le début de la communauté économique européenne il y a maintenant bien longtemps, mais c'est également dans d'autres domaines et notamment dans le domaine de l'environnement. Il se trouve qu'en 2019, lorsque la nouvelle Commission européenne a été nommée, sa priorité, la priorité des priorités de la Commission européenne, c'est effectivement ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert, c'est-à-dire grosso modo la protection de l'environnement. Dans cette protection de l'environnement, il y a énormément de règles qui sont adoptées au niveau de l'Union européenne qui s'appliquent aux Européens, aux citoyens européens, aux entreprises européennes. Mais pour autant, si nous on est vertueux, que nous on réduit nos émissions de CO2, si les autres le font pas, et notamment si les autres le font pas, mais qu'ils importent des produits qui ont été fabriqués en produisant énormément de CO2, l'objectif est pas atteint. Et donc, cette souveraineté européenne, elle a également pour but de s'appliquer dans le domaine environnemental, en ayant la possibilité de pouvoir restreindre le marché, interdire l'accès au marché ou restreindre le marché, notamment en ajoutant une taxe, pour des produits qui soient des produits fabriqués à l'étranger, qui rentreraient dans l'Union européenne, mais qui auraient été fabriqués dans des conditions qui produisent énormément de CO2.
à ce propos de l'environnement. Alors, on sort un tout petit peu du cadre, mais je me permets de vous faire réagir là-dessus. C'est un autre dossier important. Le nucléaire, justement, là, on parle aussi donc de souveraineté énergétique à ce niveau-là. La Commission européenne qui souhaite proposer un label vert au gaz naturel et justement à l'énergie nucléaire. On parle d'environnement, là, mais finalement, le nucléaire, s'il devient vert, est-ce qu'on peut vraiment le mettre sur le même pied d'égalité que le solaire et l'éolien, ou est-ce que c'est quand même une petite aberration? Parce que, mine de rien, dans tout le circuit du nucléaire, il y a quand même beaucoup de pollution au-delà des simples gaz qui sont rejetés, que ce soit du coup de la vapeur d'eau en l'occurrence.
Ben, en réalité, il y a deux questions. Il y a une première question qui est de savoir quelles sont les énergies qui produisent du CO2. Et puis il y a une deuxième question qui est quelles sont les conséquences de ces énergies sur l'environnement de manière générale. Le choix qui a été fait par l'Union européenne, ça a été de se focaliser exclusivement sur la production de CO2. Et sur la production de CO2, il n'y a aucun débat sur le fait que le nucléaire ne produit pas de CO2. Donc à partir du moment où l'objectif de l'Union européenne, c'est de réduire de manière extrêmement importante les émissions de CO2, ben, l'accent est mis sur cette réduction des émissions de CO2 et effectivement, le nucléaire ne produit pas de CO2. Après, effectivement, il y a d'autres questions qui sont des questions de déchets radioactifs, des questions de etc., qui intéresseront également une pensée écologiste, mais c'est pas de la production de CO2. Ça peut être un risque pour l'environnement, un risque pour la planète, mais c'est pas de la production de CO2. À partir du moment où l'objectif affiché, c'est on va devenir une économie neutre en carbone d'ici à 2050, on va réduire énormément les émissions de CO2, bah aujourd'hui, effectivement, bah cette énergie nucléaire, elle est idéale pour atteindre cet objectif.
Dans votre discours et justement sur tout ce que l'on vient d'évoquer, on a l'impression quand même que ce sont des stratégies effectivement sur certains points bien précis. On a parlé effectivement du commerce extérieur, mais si on revient de manière un peu plus globale sur la dimension commerciale, est-ce qu'il y a autre chose, d'autres dossiers importants que la présidence française donc souhaite faire aboutir, qu'on n'aurait pas forcément en tête en ce moment même, mais qui seraient quand même des enjeux majeurs, parce qu'on a parlé effectivement de cette régulation des marchés donc et la possibilité justement que les entreprises étrangères viennent investir en Europe. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau-là? Parce que c'est quand même transversal, le commerce. On n'a pas que les marchés, ça ou là. Il y a, j'imagine, d'autres questions. Est-ce que, d'après vous, d'autres sujets vont émerger dont on n'aurait pas encore connaissance et seront des priorités à l'avenir, donc dans les mois à venir de cette présidence française?
Alors, bah, y a énormément de sujets. Quand on regarde la présentation des priorités par la présidence française de l'Union européenne sur le site officiel, c'est un document de 70 pages. Et c'est qu'un résumé. Et ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est de la réglementation aussi bien sur le domaine de l'énergie que sur l'agriculture, que sur la régulation du numérique, que sur l'ensemble de la réglementation également sur les normes, sur les produits, sur la propriété intellectuelle. Et tout ça, ça a des impacts à l'international. Maintenant, on parlait tout à l'heure effectivement du sommet qui avait lieu à Brest. Tous ces domaines sont sur la table et dans ces domaines, il y a un accent très fort également sur le fait de négocier des accords commerciaux internationaux avec d'autres pays, l'aide humanitaire ou l'aide au développement sur les pays du voisinage. Donc tous ces sujets-là, effectivement, sont des sujets fondamentaux pour la présidence française et on a vraiment un changement de philosophie également dans l'ensemble des accords commerciaux internationaux, encore une fois, qui a été basé sur un principe de négociation totalement ouverte et qui, là, effectivement, mettre l'accent sur le concept de souveraineté européenne, qui est un concept qui, aujourd'hui, est nouveau.
Est-ce qu'on se dirige davantage vers, justement, donc vous parlez de souveraineté, mais quand on parle de marché ouvert, l'opposé, ce serait peut-être le protectionnisme. Donc, est-ce qu'on est peut-être dans cette tendance-là de vouloir un peu protéger quand même le marché européen et donc, forcément, vous l'avez dit, changer de paradigme et s'éloigner du marché ouvert pour que tout le monde puisse venir investir?
Alors, je vous le disais, c'est un concept qui est nouveau. C'est un concept qui est nouveau. Pendant très longtemps, au sein de l'Union européenne, on a entendu parler que de deux concepts. Un premier concept qui était la souveraineté nationale et un deuxième concept qui était un concept de commerce ouvert sur l'international et d'une économie totalement ouverte. Là, on est en train de remettre un petit peu d'ordre dans ce commerce international par ce concept de souveraineté européenne. Dans ce concept de souveraineté européenne, effectivement, c'est du protectionnisme. C'est protéger les frontières de l'Union européenne. Et c'est promouvoir le fait que on va rapatrier en Europe des productions qui sont des productions essentielles. Alors ça n'empêchera pas de faire du commerce, ça n'empêchera pas de continuer à faire du commerce international, mais en protégeant les intérêts européens et en protégeant en premier lieu les intérêts européens. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on le fait et pourquoi est-ce qu'on le fait à ce moment-là? Ben, on le fait à ce moment-là parce que la présidence de Donald Trump a mis un énorme accent sur America First, que tous les autres pays ont suivi, et que finalement l'Union européenne doit suivre aussi. Sinon, nous, on est un marché ouvert sur lequel tout le monde peut venir, alors que tous les marchés sont en train de se fermer. Encore une fois, si on veut avoir un commerce international qui fonctionne bien, il faut qu'on ait des règles analogues. Donc l'Union européenne n'est pas en train de fermer ses frontières, elle est en train d'aligner pour être aussi ouverte que les autres. Pas plus ouverte, pas moins ouverte.
Est-ce que ça signifie qu'on tend vers un commerce international qui sera justement de relations entre pays, de pays à pays, et donc on oublie finalement les règles communes à tout le monde? Comment ça va se passer finalement si la majorité des pays, dont l'Union européenne, qui est quand même une organisation unique quasiment dans le monde, en regroupant 27 pays sous sa coupe, comment ça va se passer finalement désormais l'avenir de ce commerce-là? On a l'impression que c'est en train de changer radicalement.
Alors, c'est effectivement en train de changer radicalement. On se dirige pas sur un commerce pays par pays, on se dirige sur un commerce bloc par bloc. Avec un bloc nord-américain, avec un bloc asiatique, même si tous les pays asiatiques sont pas dedans, avec un bloc européen. Et ça va fonctionner comme ça, et ça fonctionne comme ça. Maintenant, effectivement, c'est essentiel d'en prendre conscience. C'est essentiel de prendre conscience que c'est nécessaire et que, en tout cas, sur un certain nombre d'actifs stratégiques, c'est absolument nécessaire parce que sinon, on va manquer d'énergie, on va manquer de composants, on va manquer, etc. L'exemple du Covid a été un excellent exemple pour ça.
Est-ce que c'était utopiste peut-être de rêver avant de ce commerce libéral, entre guillemets, où tout le monde, tout était ouvert, tout le monde pouvait investir absolument partout? On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est peut-être une réalité qui était un peu erronée. On s'en éloigne ou ça n'a jamais existé? Comment on peut finalement, avec le recul, estimer cette vision des choses d'un commerce ouvert, ça a fonctionné ou aujourd'hui, justement, c'est terminé? Comment ça se passe finalement?
Alors, ça a fonctionné. Ça fonctionnera encore. Là, on est face à un changement, effectivement, dans l'organisation parce que avant, on était État par État. Et les États, finalement, même le plus gros État du monde, c'est un petit État. La plupart des États sont des petits États en termes de PIB. Donc, quand on a une concurrence qui est une vraie concurrence, et donc on peut vraiment échanger, on peut vraiment avoir des échanges fructueux. Parce qu'il n'y en a pas un qui peut vraiment prendre l'ascendant et prendre l'avantage. À partir du moment où on a cette organisation par bloc, là, en revanche, on peut avoir un acteur fort. Et cet acteur fort face à un petit acteur que serait la France, parce que la France, au niveau du commerce international, c'est un petit acteur en termes de PIB, va pouvoir prendre l'avantage, va pouvoir prendre l'ascendant. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, à partir du moment où le monde évolue par des blocs qui se forment et qui sont probablement peut-être la réaction au fait que l'Union européenne est en train de justement se structurer et est en train de devenir un acteur fort. Les autres n'ont pas non plus le choix. Ils sont obligés d'être aussi regroupés pour avoir un pouvoir de négociation qui est aussi fort. Ça fait des dizaines d'années qu'on dit, effectivement, il faut être européen parce que économiquement, on est beaucoup plus fort et on est beaucoup plus fort pour négocier, pour se défendre, pour etc. Les autres sont en train de faire la même chose. À partir du moment où les autres sont en train de faire la même chose, dans ce cas-là, effectivement, on n'est plus sur un marché qui est un marché totalement ouvert avec plein de petits acteurs. On est sur un marché avec quelques gros acteurs. Et ces quelques gros acteurs, effectivement, ils doivent négocier ensemble et créer une nouvelle manière de faire du commerce ensemble qui est différente de celle qu'on a vue jusqu'à maintenant.
Voilà qui dessine en effet les lignes du commerce européen, sans doute pour l'avenir. Merci beaucoup, Olivier Bédelime, d'avoir répondu à nos questions sur Euradio. On rappelle que vous êtes intervenant en droit du commerce international et européen à l'EDEC de Lille.
Merci beaucoup.